Time Foot. Time Foot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. De suite après l'émission phare d'Adil Farkan, les informés avec tous ses invités. Et ce soir, en ce mercredi 26 janvier 2022, au menu de l'émission, on parlera des Marocains, eh oui, les Lions de l'Atlas qui évitent le piège face au Malawi. On parlera aussi de ce Côte d'Ivoire-Égypte allant jusqu'au tir au but et on voit les pharaons d'Égypte justement se qualifier pour le prochain tour. Un petit mot concernant la star brésilienne planétaire qui n'est autre que Neymar, chez Netflix, justement, il se livre sous un documentaire de 3 épisodes. On reviendra là-dessus, c'est promis. Mais on aura aussi dans cette émission, allez, un invité de marque qui n'est autre que Ahmed Mogni, l'international comorien, excusez-moi, voilà, de cette équipe qui a fait tant vibrer et rêver les Comoriens durant cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. N'oubliez pas le numéro du standard qui est le 01 53 48 3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Foot. Alors, on va commencer cette émission avec le JT Sport réalisé par notre rédacteur Jason.
Time Sport. Et on démarre les infos du mercredi par l'officialisation du transfert d'Anthony Martial au FC Séville. Comme annoncé hier, l'attaquant français s'engage jusqu'en fin de saison sous forme de prêt, sans option d'achat pour le moment, et verra son salaire pris en charge intégralement par le club espagnol. En transfert, toujours du côté de l'OL, cette fois Bruno Guimaraes pourrait s'engager en faveur de Newcastle. Jean-Michel Aulas aurait reçu une offre de 40 millions d'euros pour le milieu de terrain brésilien. Les négociations sont toujours en cours. Et un autre Brésilien du club est concerné par les départs. Il s'agit de Marcelo, qui résilie enfin son contrat au club après plusieurs mois à l'écart du groupe professionnel. En tennis et l'Open d'Australie, comme chaque jour, Alizé Cornet s'incline. Face à Danielle Collins, la Française perd son quart de finale en 2-7 face à l'Américaine. Et en quart de finale toujours, chez les hommes cette fois, Daniil Medvedev s'est imposé face à Félix Auger-Aliassime en 5-7 ce mercredi et affrontera Stefanos Tsitsipas en demi-finale de la compétition. Et enfin, on termine par un hommage ce 26 janvier au légendaire basketteur Kobe Bryant qui nous a quittés il y a 2 ans jour pour jour lors d'un tragique accident en hélicoptère avec sa fille et plusieurs passagers. Un hommage a été rendu encore une fois aux États-Unis ce mercredi. Voilà, c'est tout pour les infos du jour. En vous souhaitant une bonne soirée avec Bilal Nenman et toute l'équipe sur Time Sport.
Et dans cette émission, merci Jason, on aura dans l'émission Time Foot notre consultante Yasmine. Comment ça va Yasmine? Bonsoir.
Ça va super, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Ce soir je suis avec Yasmine. Ça fait
Yasmine, longtemps qu'on juste à côté
pas
de Yasmine.
Je pensais qu'il allait m'apprendre la galette ce soir. La galette des rois, je voulais être la reine et finalement...
Je sais pas, elle aime beaucoup les galettes des rois, hein, Yasmine. Allez Yasmine.
Moi j'aurais apporté la galette Kabyle.
Ouais. Ah là là, c'est très très bon.
La galette Kabyle, elle est tous les jours sur la table. Donc, pour nous c'est la galette qui est reine.
C'est pas faux.
Yasmine, mais voilà, normalement c'est à elle de nous faire une galette et de nous la ramener.
Voilà, Achille, juste en face. Fois. Comment ça va Achille avec nous ce soir?
Tristement.
Ouais, tristement Achille.
Tristement.
Eh oui. C'est pourquoi cette sortie de Neymar qui se livre. Hein?
Non, pour
non sur la plateforme.
Autre chose. Ah, non, autre chose. C'est surtout que. Attends.
Ouais.
Faut préciser.
Ouais.
Yacine a parlé.
Ouais.
Yacine a parlé. Yacine a dit bonsoir.
Ouais, il a dit bonsoir. C'est rare.
C'est un
rare.
Événement.
C'est rare. On va voir le bonsoir aussi. Juste à côté de toi, c'est Samir qui nous a rejoint. Comment ça va, Samir?
Tout le monde, ça va super.
Ça va bien, Samir?
Ça va, ça va.
Ouais. Super. Ah ben, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. On va commencer cette émission.
Samir, il s'est mis sur son pistache.
Oh, t'as peur.
Sur son pistache.
Ah, voilà.
C'est-à-dire qu'il est heureux aujourd'hui parce que le Maroc a gagné.
Hein. Eh oui, le Maroc, c'est défait.
Il manque le thé.
Du Malawi.
Pistache, il l'a ramené, le thé. Bon.
Et file en quart de finale. C'est ça. Allez, place aux Marocains.
Time Sport. Le sujet des sociaux.
Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux. Eh oui, justement. Alors ça file vite en quart de finale. Les hommes de Coach Ovaïd, Achille, les Marocains.
Ouais, ils se sont imposés. Ils se sont fait un petit peu peur. Face à la valeureuse équipe du Malawi, et d'ailleurs on le disait hier, pas plus tard qu'hier,
attention dans cette émission.
À cette équipe du Malawi, et d'ailleurs ils ont marqué un formidable but. Malheureusement, l'expérience a fait que le Maroc s'est imposé pour les Malawi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions pour les joueurs marocains qui n'ont pas réussi à concrétiser. Et puis il a fallu encore une fois un exploit d'un Parisien. J'insiste bien dessus. Achraf Hakimi sur encore une fois un coup franc. De
faudrait le laisser tirer les coups francs, Achraf Hakimi, alors. Hein, ouais, dès qu'il revient. Ah ben bah oui, on s'enflamme.
Non, mais t'enflammes.
Eh oui, on est avec tous ces joueurs africains.
Encore une fois, le Maroc s'impose sur un petit score, toujours un but d'écart par rapport à son adversaire. Donc ça va être assez intéressant de les voir face à une équipe qui est peut-être moins joueuse et plus expérimentée.
Je pense qu'Achille, ils s'enflamment trop là.
Ah ouais. Et pourquoi Yasmine?
Elle a raison. Effectivement, le Maroc file en quart de finale. Après, ils sont dormis quand même sur une équipe malawite, je trouve, très généreuse, qu'on n'attendait pas forcément à ce stade-là de la compétition. Après, le Maroc, je trouve que les joueurs sont de plus en plus concernés. On sent qu'ils sont vraiment derrière le sélectionneur pour cette CAN-là. Je suis un peu dubitative parce que finalement, le Maroc, ils s'en tiennent encore à un exploit individuel. Là encore, sur un coup franc de Hakimi. C'est une équipe qui monte en puissance, mais de là à se dire que bon, ils passeront contre l'Égypte aussi.
J'ai pas dit l'Égypte.
J'ai entendu très récemment que Mbappé a dit oui, c'est le meilleur latéral droit du monde actuellement. Je pense que quand même, il y a peut-être deux ou trois joueurs qui sont quand même devant lui, Trent, Walker aussi, Aspilicueta aussi de Chelsea.
C'est normal, hein, c'est son coéquipier au
PSG, oui,
c'est
son coéquipier
de lui.
Ouais.
Et en plus, on va dire quand on voit. Aujourd'hui, c'est lui qui porte l'équipe du Maroc, hein. C'est Achraf Hakimi, hein. Même
C'est la star de l'équipe.
Bah, il porte l'équipe. Ouais. Moi, j'ai vu une vidéo dans la conférence de presse de Vahid. J'ai vu Aboufal et Hakimi s'amuser avec Vahid, parce que quand il était sélectionneur de l'Algérie, c'est quelqu'un de très 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 dur,
très fermé.
Et là, je pense qu'il a mis un peu d'épinard dans son beurre, c'est ça? Ou le beurre dans ses épinards?
Non, il a plutôt mis du beurre dans ses épinards.
Ouais, sans être flamboyant, quand même, je pense qu'ils ont appris à gagner. Et c'est tant mieux, parce que franchement, un quart de finale Maroc-Égypte, ça fait rêver, ça donne de l'importance à cette CAN.
Excusez-moi, ça me fait pas rêver. Hein.
Ouais.
Maroc, ça fait rêver.
Ouais,
pour tous les amateurs du beau football, ouais. Moi j'aimerais bien voir Égypte-Maroc que de voir Égypte-Malawi.
On aurait pu penser que ça allait être un peu fermé, mais je pense que quand même que le Maroc est un peu plus supérieur quand même à cette équipe égyptienne. Sauf que l'Égypte vient de passer quand même les prolongations et les tirs au but, donc ils seront peut-être un petit peu moins frais que les Marocains.
Après les Égyptiens jouer une équipe nord-africaine,
alors
pratiquement le même football.
Oui.
Je pense que Mohamed Salah, c'est pas le même joueur qu'on a vu aujourd'hui, qu'on va voir contre le Maroc. Donc c'est complètement différent. Hein. Voilà. Malheureusement aussi encore, même si on aurait bien aimé voir de belles pelouses. Aujourd'hui aussi, Côte d'Ivoire, Égypte. La pelouse elle était un peu du stade de Japouma là. Franchement, moi j'ai hâte qu'il le ferme quoi.
Ah oui, Samir. Allez, c'est marocain, ayant de l'Atlas.
Alors, ça fait un petit moment que le Maroc nous a habitués à pas avoir forcément en fait le jeu que l'on souhaite, c'est-à-dire enfin du mouvement, de la technique, etc. Par contre, ils défendent bien et puis ils arrivent toujours à faire le plus 1. Donc maintenant, ça fait quand même une bonne année qu'on a l'habitude de ça. Par contre, là, ils vont tomber contre un adversaire qui sait aussi faire ça, qui est l'Égypte. Donc ça va être deux adversaires qui est très fermé, deux adversaires coriaces, deux adversaires qui tactiquement je pense sont en place. Et là je suis curieux de savoir qui arrivera à pronostiquer en fait le vainqueur de ce match. Donc ça, pour moi ça va être très compliqué. Par contre, est-ce que c'est une bonne nouvelle que la star soit le latéral droit du Maroc? Ça je sais pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'on débloque des situations sur coup franc? Ça je sais pas. Donc ça c'est un peu l'énigme que moi j'ai. Alors, puis il faut pas oublier.
On voit des attaquants comme à l'image de ma série qui fait quand même des petites merveilles à Séville.
Il s'est réveillé le dernier match.
Quand on voit le but qu'il a marqué.
Et puis il faut pas oublier que ce sera peut-être une revanche pour les Marocains, le dernier Maroc-Égypte avec le fameux but de Mohamed Salah en toute fin de match 1-0. Donc c'était encore une fois sur un petit score le Maroc-Égypte. Donc peut-être que c'est pas deux grosses équipes qui jouent, Achille, mais en tout cas ça reste quand même deux nations confirmé du football africain, donc ça se regarde.
Alors Achille, on l'écoute.
Juste avant de répondre à Samir, je passe un petit coucou à Nabil, qui nous écoute.
Nabil.
Le Maroc Honnêtement, oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez rigide à l'image de son coach, Coach Vaïd. Mais quand on voit effectivement la prestation de l'Égypte, on peut se dire que ça reste relativement équilibré. Mais il faut tenir compte aussi du fait que le gardien égyptien, le titulaire, s'est blessé. Tout à l'heure, qui est sorti sur blessure, très probablement fin de la compétition pour lui. Comme elle le disait si bien Yasmine, il y a eu des prolongations qui sont passées par là. Le Maroc tente de produire du jeu. Et effectivement, depuis le début de cette compétition, ça a été une équipe qui n'a pas forcément dû produire du jeu pour aller marquer. Là, cette fois-ci, elle va se, comme tu le dis bien, Samia, elle va être confrontée à une équipe qui a l'expérience, qui sait défendre et qui sait faire mal.
Ouais, mais
et qui sait faire mal.
Achille, le problème du Maroc, le problème de la Tunisie, le problème de l'Algérie, le problème de l'Égypte et le problème de beaucoup de sélections africaines aujourd'hui, ils ont, dans la transition, ils n'ont pas des vrais numéros 10 à l'ancienne. Les gens, c'est-à-dire les joueurs de la dernière passe, aujourd'hui, quand on voit l'Algérie, elle a souffert pendant la CAN, il n'y avait pas un vrai numéro 10 comme il y avait Belloumi à son époque, ou la Tunisie quand il y avait Boudelbala, quand il y avait Timoumi, quand la Tunisie il y avait Talqriab. Ça, c'est des grands joueurs qui savaient faire la différence, faire la passe pour donner, pour mettre pour un petit peu répondre à Samir. Aujourd'hui, cette équipe marocaine au milieu de terrain, moi je trouve pas de joueurs qui savent faire la dernière passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on voit des défenseurs marqués. Heureusement que Vaïd peut compter sur une défense, on va dire très très solide, à l'image de Saïs et Agard. Je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure paire en Afrique. Hein.
Est-ce que finalement Hakim Ziyech ne manquerait pas à l'équipe?
Ah ça, c'est il y a que le résultat qui va, s'il va au bout, je pense qu'on va dire. Mais après, un joueur comme Hakim Ziyech,
avec le but qu'il a marqué récemment,
je pense qu'il a sa place dans, on va dire, même 80% des grandes sélections, pas uniquement des sélections africaines. Après, c'est le choix du coach. Aujourd'hui, ça lui sourit. Il est en quart de finale. Et tant mieux pour le football marocain. Mais c'est demain. il fait un faux pas. Ça va être compliqué pour lui.
Mali, Guinée équatoriale, toujours 0-0. Le match vient de commencer à 20h, hein, 11 minutes de jeu. Oui, Samir, les Marocains nous parlaient de Ziyech, mais non, ils sont toujours là quand même, c'est bien, quart de finale.
Comme Yacine le dit, si le Maroc prend pas la CAN, forcément tout le monde va lui tomber dessus en disant qu'il est Ziyech, et si jamais le Maroc prend la CAN, Vaïd, ça va être un génie, et voilà, tout simplement.
Il faut rappeler, Samir, que les deux coachs, hein, que ce soit
Kéroz
ou Vaïd Elouzic, ce sont les deux plus gros salaires des sélections africaines. Donc ils ont intérêt à
d'où le beurre dans les épinards.
Ouais.
Voilà.
Ils ont intérêt à parce qu'aujourd'hui l'Égypte, quand il y avait l'entraîneur chez Atta, franchement, ça n'a rien à voir avec Hassan Chihata n'avait pas le même salaire que Kéroz aujourd'hui. Hein. Je pense à l'époque il était aux alentours de 40 000 euros. Aujourd'hui Kéroz il y marge aux alentours de 90 000 ou 100 000 euros. Franchement, quand je vois la qualité des joueurs égyptiens et le jeu qui est pratiqué, moi je me pose la question à quoi ça sert de payer un entraîneur 100 000 euros. Et c'est le cas du Maroc. Hein, parce que Vaïd avec l'Algérie, il a pu développer, on a eu la particularité d'avoir peut-être un groupe soudé où il y avait du beau jeu, surtout le fameux match contre l'Allemagne où il y avait beaucoup de regrets. Peut-être qu'on aurait
En Coupe du Monde 2014, voilà, il faut bien le préciser.
Il y a eu beaucoup de déchets. Même quand je regarde cette équipe marocaine, je ne reconnais pas le Vaïd, sa philosophie de jeu. Vaïd, c'est un joueur qui aime beaucoup l'offensif. Et là, j'ai l'impression qu'il compte énormément sur les défenseurs.
Ce qui me déçoit par rapport à ce que tu dis, moi, c'est pas tant Vaïd, parce que je pense qu'en tant que sélectionneur, et il a quand même de l'expérience, je pense qu'il s'adapte à un environnement, etc. Mais moi, ce qui me déçoit, tu sais, c'est quoi, Yacine? C'est plus le public, les supporters. Il y a encore quelques mois, mais tu voyais sur Twitter des Vaïd out, tout le monde le critiquait, genre c'est nul à chier, c'est moche à voir, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de but, juste on défend, c'est 1-0, c'est dégueulasse, etc. Et aujourd'hui, tu vois gentiment qu'en fait, l'opinion publique commence un petit peu à se retourner. Et tu vois, ça, c'est un truc qui me dérange sur, pas que les réseaux sociaux, mais d'une manière générale, sur les supporters. C'est qu'ils sont beaucoup dans la culture de l'instant, en fait. C'est incroyable. Laisse le sélectionneur travailler. Et là, pour l'instant, ça lui donne gentiment raison.
C'est exactement la même chose. Comment
il est décrit aujourd'hui?
Le lendemain, il est devenu voilà, ils vont faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs.
Et ben, ça aussi,
les grands entraîneurs ont fait des erreurs.
Ça aussi, je suis pas d'accord. Donc, aujourd'hui, quand les gens commencent à taper sur Belmadi, je comprends pas, en fait. Le gars nous a fait rêver pendant 3 ans.
Il
a
parlé hier des réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Hachid, celui qui a un compte Twitter, il peut dire, tiens,
il n'y a pas que sur Twitter.
Ah, Samir, il est nul. T'as vu d'ailleurs, il y a eu un problème entre un journaliste français, je vais pas citer le nom, Eto'o.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est facile de taguer quelqu'un et de voir. Et Eto'o.
Il a répondu.
Il a répondu d'une manière assez sèche et à la limite inélégante pour le joueur qu'il est. Et la place qu'il occupe aujourd'hui, hein, parce qu'il occupe une place quand même importante, c'est le numéro 1 du football camerounais. Je pense qu'il n'aurait pas du tout, à mon avis, hein, sur le plan, il est très mal conseillé sur le plan de la communication. Il a réagi comme il est tôt le joueur, tout de suite, voilà, ou la personne. Ouais. Alors que.
Bon, il vient d'être nommé, il faut lui laisser.
Quand on est président d'une fédération, on a le droit de réserve aussi.
Oui, voilà.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, d'ailleurs, à un moment donné, même en France, Olas, il n'arrêtait pas, parce que c'est pas comment gérer Twitter, il balançait tout. Mais au fur et à mesure, il a été recadré, donc il faut faire attention.
Extrêmement attention.
Très attention. Mais
moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que par rapport aux deux rencontres que vous venez de rencontrer, vous avez vu une équipe qui est susceptible de gagner la CAN par rapport au match Maroc-Malawi et puis Côte d'Ivoire-Égypte? Pour moi, aucune des deux équipes.
C'est compliqué. Déjà, depuis le début, moi, je fais que de le dire de manière objective. Je crois que sur 100% des matchs, je suis dégueulasse au pronostic. J'ai faux à tous les matchs, en fait. À chaque fois que je pronostique un truc, c'est l'inverse qui sort.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment dur de pronostiquer. Et en plus, les matchs qu'on a eu depuis le début, c'est un pseudo favori contre un pseudo outsider. Mais à chaque fois, on voit que la fameuse petite équipe porte beaucoup de problèmes à la fameuse grosse équipe, aux favoris. Donc c'est compliqué. On a pas eu encore de grosses confrontations. Par exemple, comme là aujourd'hui, un Côte d'Ivoire-Égypte. On a vu que c'était serré. On n'en a pas encore beaucoup eu.
Avec Yacine.
Moi, la période où la CAN se déroule, cette période de l'année, franchement, c'est une très très mauvaise période.
Parce que 2023 sera en été.
Physiquement, ils sont à sèche.
Ouais.
Et on a connu tous, tout le monde, quand la plupart des sélections ont eu au moins une dizaine de joueurs qui ont le Covid. Et il y a des organismes qui sont arrivés. Alors, on prend l'exemple de Riyad Mahrez. Je ne sais pas, mais c'est un joueur méconnaissable. À un moment donné, contre la Côte d'Ivoire, on avait l'impression que c'est un joueur qui était là.
Mais c'est ça qui est intéressant pendant cette CAN, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire qui va gagner cette CAN.
Ah si, moi je te le dis, moi.
2022.
Ah, je peux te le dire.
Tu pourrais dire le Cameroun, peut-être, effectivement.
Ben, on verra bien.
Il
n'y
a pas vraiment de certitude. C'est-à-dire que tu regardes les matchs, là, moi j'ai l'impression que les gens regardent quasiment tous les matchs, parce que là c'est plus par exemple hier on a vu le Malawi a mis en difficulté quand même le Maroc. Tu dis plus tiens, c'est sûr que le Maroc va gagner 2 ou 3-0. Là tous les matchs ont un enjeu et sont hyper intéressants dans le contenu.
Merci Yasmine, et aussi à vous les consultants de Tamfoot. On fait une courte pause, la première, avant de revenir avec Ahmed Mogni, l'international comorien.
Tamfoot revient dans un instant. 20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission qui est Time Foot spéciale Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, en compagnie de notre consultant Yasmine Achille, Yacine et sans oublier Samir. Allez, on va questionner Samir concernant ce 8e de finale que opposait la Côte d'Ivoire au pharaon égyptien.
Time Sport. Le duel.
Sacré duel. Gros match. Le premier, quoi. Ouais, ça te fait sourire.
Non, oui, ça me fait sourire, sérieux, parce que comme on l'a dit juste en première partie, enfin dans tous les matchs de poule, dans tous les matchs de poule, on a eu un peu un favori contre un outsider. Là, bon, en 8e de finale, on a eu quand même une belle confrontation contre deux belles nations du football africain. Ça a donné un 0-0. Ça a fini au tir au but et en fait ça a montré que pour la suite de la compétition, ça va être très compliqué à partir des quarts de finale. L'Égypte a été fidèle à elle-même, hein, tactiquement en place, coriace, resserré, avec on essaye en tout cas de se reposer sur la star de l'équipe. Et puis j'ai pas reconnu une Côte d'Ivoire qui a tabassé l'Algérie, qui a été motivé contre l'Algérie. Cette Côte d'Ivoire là, donc je me dis est-ce que finalement ils étaient en excès d'orgueil, en très grosse motivation pour sortir l'Algérie, est-ce que c'est l'Égypte qui a réussi à freiner justement cette équipe ivoirienne, je ne sais pas. Donc je me dis, avec ce qu'ils ont montré contre l'Algérie, bah c'était peut-être un potentiel favori. Avec ce qu'ils ont montré contre l'Égypte, je ne sais pas si c'est l'Égypte qui a réussi à freiner la Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a déçu.
Ouais, comme ça, c'est bien.
Telle est la question, je ne sais pas.
Alors, peut-être la réponse avec Yacine.
C'est simple. Hein.
Yacine, vas-y.
Côte d'Ivoire, Algérie, c'est l'Algérie qui a fait tout à l'envers.
Ouais.
Parce que impossible cette équipe.
Alors.
On refait le match 100 fois. On va les battre 100 fois. Hein. On le refait le match 20 minutes après. C'était juste. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la sélection algérienne, parce que dans le jeu, à chaque fois que l'Algérie se mettait en place, on les mettait en difficulté. Et là, aujourd'hui, l'Égypte, ce n'est pas un grand Égypte qu'on a vu. Hein.
Non, non,
voilà, ils ont géré le match tactiquement.
Et l'ont exactement. Tactiquement,
ouais. C'est des joueurs très vicieux. Hein.
Alors,
je vais être assez chauvin, mais.
Allez, Achille.
Yacine,
on va voir.
Pour moi, c'est la rencontre, la plus belle rencontre que j'ai vue depuis le début de cette compétition. Parce qu'il y a eu du jeu. Du côté de la Côte d'Ivoire, moi, j'ai contrairement
et parce que face à l'Égypte, tactiquement, c'était peut-être supérieur au match que tu as vu aussi un petit peu avant.
Mais
aussi.
J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce match-là. Il y a eu des occasions. Tactiquement, ça, c'est, les blocs ont bien coulissé. Les gardiens ont été bons. Malheureusement, il n'y a pas eu de but. Et encore une fois, et comme je le disais depuis le début de cette compétition, ce qui va faire défaut à la Côte d'Ivoire, c'est son gardien. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de grands gardiens. Et c'est ce qui a fait la différence ce soir face à l'Égypte, qui, elle, son gardien titulaire est sorti sur blessure, fait rentrer son gardien numéro 2, et justement dans la séance de pénalty, qui arrête un pénalty. Et quand on voit l'attitude du gardien Badrali Sangaré sur les pénaltys, on sent le manque d'expérience. Et là, je pense que c'est plutôt l'expérience des Égyptiens et le savoir-faire de toutes les années précédentes, de toutes les compétitions, qui a joué, qui a réellement joué, et puis le savoir-faire de Kairos.
Il faut aussi mentionner une chose, il faut savoir qu'on avance dans la compétition, les organismes deviennent de plus en plus fatigués. C'est-à-dire, la prestation que tu peux faire 4 jours avant, tu ne peux pas la reproduire, parce que les Ivoiriens, ils ont fait leur match contre l'Algérie. Hein.
Ça,
physiquement, ils ont tout fait.
Et ça, d'ailleurs, ça peut jouer pour le quart. Hein, pour le quart, hein, parce que là, tu as l'Égypte qui a joué une prolongation et le Maroc qui a fini en
prolongation sous 33 degrés avec plus de 66% d'humidité.
Ouais.
C'est des paramètres qui sont à prendre en considération.
C'est pour ça que des petites nations, ce qu'on appelle les petits pays du football africain, peut-être physiquement, ils étaient mieux, beaucoup mieux préparés que beaucoup de, que les grandes nations, et ils ont pu les mettre en difficulté. Mais c'est la Coupe d'Afrique qui a eu lieu en été, où les joueurs ont eu le temps de récupérer avant d'attaquer la compétition. Je pense que l'Algérie aurait gardé son titre, parce que quand je revois encore toutes les équipes, franchement, même l'Algérie, mais à zéro, elle est au-dessus de tout le monde.
Ouais, non, malheureusement, c'est triste, malheureusement, on va pas refaire.
L'Algérie est éliminée, ça y est, c'est bon.
Match,
c'est dommage.
Et voilà, c'est un gros regret. C'est un gros regret, malheureusement.
Un regret énorme pour la CAN. Pour la CAN, quand on voit l'Algérie, quand même, quand ils emballent le match, tu vois le jeu, c'est plaisant, c'est. Là, t'as l'impression que tu regardes un match de CFA.
Non, mais là je peux pas te laisser dire. Je peux pas te laisser dire un match de CFA quand même. Il y a quand même deux nations qui ont bien joué.
C'est un match de CFA. Il y a plus d'engagement physique. Hein.
Ah ben là pour le coup.
Ils étaient out. Hein,
quand tu vois
joueurs de très haut niveau.
Ouais,
à la 60e minute, il peut pas faire une course de 15-20 mètres. Moi, je me pose des questions.
Ben, 33 degrés,
60%. On en a certes qui se posent des questions. Est-ce que tu as vu le match? Et aussi, tu peux pas dire que c'est un match de CFA. Ben, Nasser, c'est un auditeur.
C'est quoi la marque de télé?
Parce que c'est. J'ai tenu notre téléviseur.
C'est une radio là de 1950.
Tu te moques pas des années 50 quand même, Yacine.
Oui, c'est une radio.
La belle époque, les années 50.
C'est pour ça qu'il n'arrive pas à distinguer. Entre le Brésil et le Mexique des années 70.
Yasmine,
d'ailleurs,
téléviseur HD,
Eric Bailly, c'est vraiment triste. Je suis vraiment très triste pour lui parce qu'il a fait une très bonne compétition. Il s'est bien relancé, lui qui joue pas forcément beaucoup du côté de United. Et là, il a fait une très très belle CAN. Il a fait un très bon match. Malheureusement, il manque son penalty. Et tu te dis, excuse-moi, mais la Côte d'Ivoire, mais il leur faut quoi? Il leur faut quoi? Il faut que Didier Drogba, il revienne, il revienne,
je sais pas s'il y a des Ivoiriens qui nous écoutent, mais en gros, t'es une séance de tir au but, tu sais comment ça se passe. T'avais 120 minutes pour tuer le match, t'avais qu'à tuer le match avant. Franchement, je peux pas en vouloir, ça arrive à tout le monde. Regarde Mahrez qui rate le penalty.
Je suis triste pour lui, parce que malheureusement, c'est lui qui a loupé le penalty, mais la Côte d'Ivoire a eu des occasions. Ça n'a pas été au fond. Sébastien Haller, moi, je ne suis pas encore convaincu de lui avec la sélection. Parce que, à mon humble avis, comme tu le disais si bien, il manque ce numéro 10. Il manque ce numéro 10, ce joueur qui est capable.
C'est un renard de surface. Voilà. Il faut lui donner les ballons. Il n'a pas de ballon. Comment tu veux qu'il marque? Le seul but qui marque contre l'Algérie, il est hors-jeu. Alors que tu as un avant-centre comme ça, quand tu as un vrai pourvoyeur
en
ballon, même sur les ailes. Même sur les
bah, ils ont des ailiers intérieurs.
Moi, je suis déçu par Pépé. Ils n'ont pas donné les bons ballons. Peut-être qu'en arrivant, c'est un nouveau joueur. Il n'est pas rentré dans le système.
Parce qu'il faut parler aussi de
la cohésion. Hein. Parce que les joueurs, ils sont arrivés, la plupart. Le 3 janvier, ils ont été libérés par leur club. La compétition, elle a commencé 4 jours après. T'as le temps de rien faire, mon ami.
D'autant plus que c'est peut-être un mal pour un bien, étant donné que là, ils ont été éliminés pour les phases de qualification pour la Coupe du Monde. Là, ils sont éliminés de la CAN. L'année prochaine, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller au bout, sur leur terre, pour aller tenter de remporter cette CAN 2023, la Côte d'Ivoire. Faudra voir si c'est possible.
C'est une grosse déception. Tu ne te qualifies pas à la Coupe du Monde, tu sors en huitième de finale à la Coupe d'Afrique. Tu n'as plus qu'à attendre ta prochaine Coupe d'Afrique. Franchement, si je suis ivoirien, je suis déçu, mais sur le papier, c'était pas dégueulasse. Surtout offensivement, c'était pas dégueulasse.
Yacine, on revient à toi.
Franchement, l'équipe qui me fait vraiment. Je pense qu'elle peut.
J'espère que tu vas dire la Tunisie.
Ah, c'est la Tunisie.
Les Tunisiens. Les Aigles de Carthage.
Ça surprend,
Gilles.
Des fois, ça m'arrive de zapper sur les chaînes tunisiennes. J'écoute leurs consultants. Je dis, mais ces mecs-là, ils vivent sur quelle planète?
Comme Yannis aussi.
Ils ont un super coach. Parce que quand tu vois les joueurs tunisiens, tu dis, il faut faire un collectif.
Non, mais là,
je pense qu'il aura transmis.
Ça n'a pas été facile pour vous.
Un gars comme Sakini qu'on a enterré, c'est quelqu'un, on a dit, ça fait combien d'années qu'il est au Qatar avec les blessures, son hygiène de vie. Et ça prouve à chaque fois, ça reste un immense joueur.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi, en fait.
Ah, tu peux nous
parler. Pourquoi?
Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, pour moi, le mérite ne vient même pas aux joueurs. C'est au staff technique tunisien. Qui, à mon sens, prépare très, très, très bien les rencontres.
Je parle de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est le patron du staff technique.
On est bien d'accord.
Ne t'inquiète pas.
Mais cette équipe de Tunisie, je suis désolé. Rien du tout.
Pour le coup, Achille, c'est vraiment le jeu à la tunisienne. Ça a toujours été comme ça avec l'équipe de Tunisie.
Je m'explique, les
Tunisiens, comment on les appelle? On dit que c'est les Italiens de l'Afrique. Ouais. Pourquoi on dit ça? Yacine, je te pose la question.
Alors, en dehors des coupes OGL et compagnie,
pourquoi?
Mais t'es très jeune, c'est lui qui a vu la
Tunisie. 35 ans déjà.
J'ai 35 ans quand même. Ça se ressemble pas trop. Il n'y a pas de Jaziri. C'est lui qui a vu la Tunisie de 78. Avec Talq Diab, Agoulbi.
Je te confirme que j'étais pas né en 78.
C'est du Messi, c'est un virtuose.
C'était justement ce que je voulais dire, je sais pas comment ça a été compris, mais c'était pas du tout un reproche et c'était justement une qualité, ce que j'ai dit. Je trouve que c'était très très bien joué de la part des Tunisiens. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai voulu le dire. C'est dans le sens où tu avais Tunisie-Nigéria et moi encore une fois, j'admets mais totalement me tromper. Je pensais vraiment que le Nigeria allait, à travers ce qu'ils ont montré, battre la Tunisie gentiment. Ouais. Et finalement, les Tunisiens m'ont surpris. Je suis agréablement surpris et je suis fier des Tunisiens parce que tactiquement, ils ont géré le Nigeria comme jamais.
Et puis, ils ont un joueur au milieu de terrain. un certain Laïdouni qui joue, qui a été élu meilleur joueur du championnat de Hongrie à Franck-Varos la saison passée.
Qui donne sa vie au milieu de terrain, monstre. Qui est très très
c'est
fort.
C'est un Algérien, enfin, moitié son papa algérien, sa maman tunisienne, il a attendu l'appel.
Ça
de,
donc c'est grâce au côté algérien qu'il est fort alors. C'est pour ça.
Ah,
mais
non, Yassine, tu ne veux pas.
Il a attendu.
Yassine, quand même.
Ben oui.
Non,
ben oui, c'est la vérité.
Moi, pour le moment, je dis un grand bravo à la Tunisie.
Je vais peut-être dire quelque chose qui va.
On a des réactions.
Est-ce qu'il avait sa place dans cette équipe d'Algérie?
Moi, je pense pas.
Ah ben non,
je pense pas. Totalement.
Ah ben, pas qu'il avait le niveau pour pouvoir jouer avec l'Algérie. Mais je pense qu'il a peut-être la Tunisie.
Il aurait été poste par poste, il aurait pris la même place que Guedioura avait en 2019. Parce qu'ils ont le même profil et Laïdouni encore plus fort. Parce que techniquement, c'est un super joueur. Et vous allez voir, dans les prochaines, dans les deux, trois prochaines, c'est un joueur qui s'est révélé un peu tard. C'est un gars, donc Big Up, il a été formé à Montfermeil. C'est un super joueur.
Si ça fait un Tunisie-Sénégal en demi, je vois la Tunisie sortir le Sénégal maintenant.
Et pourquoi pas?
Mais comme je suis un mauvais pronostiqueur, peut-être que c'est l'inverse qui va sortir. Mais je vois vraiment la Tunisie sortir le Sénégal à l'en finale maintenant.
La Tunisie a rarement raté le match qualificatif pour la Coupe du Monde. On a rarement raté.
C'est vrai.
Souvent,
c'est
vrai. Ils ont bien préparé.
La Tunisie a l'expérience, a déjà gagné la CAN, donc ils savent.
Non, mais tactiquement, ils sont très solides.
On a Malik et Karima qui sont tout à fait d'accord avec toi, Achille. Il n'avait pas sa place avec la sélection algérienne.
Ouais, mais encore une fois, il faut leur dire.
Ils sont trois contre Yacine. Malik, Karima, Achille contre Yacine.
C'est pas moi.
Trois contre un.
Des gens qui regardent pas le football.
Il y en a qui ne regardent le football tout comme toi, Yacine.
On regarde Top Chef.
Quand même.
On regarde Top Chef.
Laïdouni, c'est un joueur exceptionnel dans son poste.
Moi, je te
crois,
Yacine.
Dans son registre, milieu récupérateur.
Bien sûr.
Techniquement, physiquement, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Je pense que Belmadi, quand il voit la Tunisie, il se pose et s'est dit peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Franchement. Voilà. Donc, moi, je suis algérien, j'aurais bien aimé le voir au sein des Fennecs. Tout simplement.
Voilà, c'est un souhait.
Ouais.
C'est un souhait.
Mais, malheureusement, il fait le bonheur de nos frères tunisiens.
Quel âge a-t-il?
Il a 26 ans, 27 ans.
26, 27 ans.
Il y a quand même des
joueurs comme Benassir qui sont assez jeunes.
Zerouki Benasser, c'est pas vieux non plus.
Qui sont pas jeunes. Donc, moi, je pense qu'il est encore en dessous.
Ni Boudaoui, ni Benassar ne sont des sentinelles. Et Achille, c'est une vraie sentinelle.
Ouais, mais il y a Ben Dabka aussi qui est là.
Allez, Guinée équatoriale, 35e minute, 0-0, Samir, encore. Angers, en Ligue 1 Uber Eats, face au Stéphanois, 1-0 pour cet Étienne. Eh oui, Yacine.
Le réveil.
80e minute.
Il a le même bonnet que le coach de Saint-Étienne. Comment il s'appelle déjà?
Pascal Duprat.
Eh oui.
Voilà.
Autant j'aime bien Saint-Étienne.
Eh oui, Stéphane.
Autant j'aime un peu moins Duprat.
Ils ont fait rêver.
Le cœur est du côté d'Angers.
Aïe.
Voilà, et je pense beaucoup au jeune Bilal Brahimi. Peut-être que c'est son dernier match à Angers. Et
ce soir, c'est Samir qui va porter bonheur à Saint-Étienne. Il est en vert aujourd'hui.
Peut-être.
On verra bien.
Voilà. Et ça sera un très, très grand renfort pour la sélection algérienne. Et retenez très bien ce nom.
On va essayer d'avoir Ahmed Mogni. Il y a un petit empêchement là, mais on va essayer de l'avoir. Allez, c'est promis, avant de revenir pour la dernière partie de cette émission avec Neymar Junior et aussi ses trois épisodes sur la plateforme Netflix. À de suite.
Time Foot revient dans un instant. 20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission de Time Foot, toujours en compagnie de Yasmine, Yacine, Samir et de Achille, voilà, qui est avec nous jusqu'à 21h. Allez, on va parler cette fois-ci du dernier sujet de cette émission. Allez, on y va.
Time Sport. La troisième mi-temps.
Eh oui, l'explication tendue entre Neymar et son père dans le documentaire sur la plateforme de Netflix, ça fait tant jaser depuis aujourd'hui. Achille, justement, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu encore, ce documentaire de 3 épisodes, si ma mémoire est bonne. Et c'est vrai que Neymar intéresse toujours, on s'en fout. Alors,
moi, par exemple, je comptais pas du tout regarder ce documentaire-là. Du coup, j'ai commencé à regarder. J'ai vu que c'était en 3 parties. J'ai commencé à regarder pour ce soir. Moi, ce que je retiens, j'ai vu à peu près la première partie, ce que je retiens, c'est que dans les premières minutes, c'est pas forcément très flatteur non plus pour Neymar, parce que on entend Neymar critiquer le championnat français, critiquer les Français. On voit Neymar tomber par terre, pleurer. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas très bon forcément pour son image, ouais, et pour le message qu'il voulait finalement véhiculer à travers ce documentaire. Ce qui est intéressant, par contre, c'est effectivement cette relation qu'il a avec son père. Quand il a commencé le football, effectivement, quand il était dans sa ville, quand il a ensuite enchaîné avec Santos et Barcelone, c'était un joueur qui était très, on va dire, très épanoui, très heureux. Et il est devenu ensuite la star qu'il est aujourd'hui. Et finalement, on apprend que son père, celui qui l'idolâtrait quand il était plus jeune, son père ne le voit plus finalement, n'a plus cette relation très affective avec lui. Et du coup, ne voit son fils qu'à travers un produit, un business à développer et à gagner de l'argent dessus. Et on connaît quand même cette sensibilité, cette affection qu'ont les Brésiliens avec leur famille, avec leurs proches. Et je pense que ça a été quelque chose qui a été un peu compliqué à vivre pour Neymar, surtout que le championnat français aussi n'a pas été assez tendre, assez sympa, on va dire, avec lui concernant ses prestations. J'ai l'impression qu'il s'est un peu retrouvé, on va dire, dans une situation un peu schizophrénique entre sa passion et ce qui l'empêche justement de jouer et d'être heureux sur le terrain, c'est-à-dire ce manque d'affection de son père. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que du coup il a aussi essayé d'avoir un petit peu plus d'affection au niveau de sa mère. On sait qu'il est souvent avec sa mère, avec sa sœur, et je trouve que c'est un documentaire qui forcément ne nous met pas à son avantage, dans lequel on n'apprend pas forcément énormément de choses. Bon, je l'ai pas terminé encore. Mais pour moi, ça reste un énorme gâchis. Pour moi, ça restera un joueur très talentueux, un des plus talentueux du football mondial, mais qui n'arrivera jamais à être un top joueur par la suite, du manque, on va dire, un peu de l'affection de son père, et du fait que, vous savez, c'est un peu comme quand un homme se met avec une femme, il dit je sais pas si elle est avec moi pour mon argent ou juste parce qu'elle m'aime. Donc
elle est là pour le beurre dans les épinards.
C'est assez compliqué pour lui, et je pense qu'il n'arrivera jamais forcément à très bien rebondir par la suite.
C'est intéressant, Yasmine. Vraiment. On voit d'où tu viens. Vraiment. Non, c'est vraiment intéressant. Ouais, sociologue du sport. Non, mais vraiment. C'est assez pertinent ce que tu viens de dire. Parce qu'on a pas mal de personnes qui sont d'accord avec toi, Yasmine. Honnêtement. Samir. Ouais. Et Achille.
Effectivement, c'est très intéressant ce que Yasmine vient de dire. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas Neymar, ça reste un des meilleurs joueurs du monde. Donc il y a quelque chose, pour suivre ce que tu dis, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est tellement une star qu'on le connaît que à travers le rectangle vert. Et c'est vrai que des fois on a besoin de savoir, mais en fait ce mec-là, comment il est dans sa vie privée, c'est quoi sa relation, c'est quoi ses émotions. On a juste besoin de savoir ça, et pour faire suite, juste pour finir, Bilal, s'il te plaît, et pour suivre ce que tu disais, Yasmine, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est vrai que si le reportage, que je n'ai pas encore vu, démarre par quelque chose de négatif, ça m'étonne pas, parce que si dans ces épisodes-là tu vois que des choses ben Neymar, on peut dire que c'est que de la communication positive sur Neymar, on peut dire que c'est que quelque chose pour le gonfler, pour le monter, pour le défendre, etc. Finalement, t'es obligé de montrer des aspects difficiles de sa vie professionnelle, de sa vie privée. T'es obligé de le montrer. Et le montrer, ça passe par quoi? Ça passe par sa relation avec sa famille. Un truc qui touche tout public, ce sera toujours les émotions et la lignée de sang. Ça, quand les gens ils te parlent de la famille, c'est toujours quelque chose de particulier. Tout comme toi, Yasmine, j'ai pas encore regardé, mais je suis impatient de le voir. Est-ce que ce sera bien? Je ne sais pas. Par contre, je pense que c'est une bonne chose de nous montrer un Neymar, une star mondiale, sous un autre angle. Que le joueur qu'on voit pleurnicher, que le joueur qu'on toutes les critiques qu'il subit aujourd'hui, le simulateur, le ceci, le cela. Non, moi j'ai envie de voir Neymar sous un autre angle, donc ça m'intéresse de le regarder ces épisodes.
Si Netflix a fait un truc sur Neymar, c'est que tout a été préparé d'avance. C'est un scénario.
Justement, je vais aller dans le sens de Yacine. Alors, je n'ai pas encore vu. Mais au vu des premières réactions, je pense que le documentaire est très...
très réaliste. C'est-à-dire que Neymar, c'est quelqu'un qui est très, très, très émotif. C'est-à-dire que s'il ne va pas bien,
beaucoup de joueurs sont comme ça aujourd'hui.
Il va l'exprimer, il va le sentir.
Et les Brésiliens, de manière générale.
Voilà. Il va te dire, je ne vais pas bien. S'il doit insulter, il va insulter. Il est comme ça. C'est son naturel à lui. Et je pense que ce documentaire-là, il faudrait avoir un autre point de vue. Je ne l'ai pas encore vu. Hein.
Alors ?
Donc, je me base sur juste des suppositions, mais c'est juste sur les failles. Sur les failles de Neymar, tout simplement. Il a voulu montrer ses failles. Peut-être donner ce côté-là humain. Humain, peut-être que les médias.
Parce que et je pense que c'est plutôt dans.
Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que depuis l'âge de 16 ans, il est ultra médiatisé.
Sa célébrité
ultra,
très jeune.
Ultra, ultra médiatisé.
De carrière aussi. Et,
si vous remarquez bien, on n'entend jamais parler de la maman de Neymar.
Oui.
Parce qu'il la protège. Et pourtant, c'est un pilier de sa vie. On n'entend pas beaucoup parler de la maman.
Quand elle est sortie avec un jeune, on en entend parler, voilà, mais non, voilà, mais ça nous intéresse pas plus que ça nous, mais c'est vrai qu'ils en ont parlé.
Ouais, sa mère, quand même.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien qu'on parle de foot. Contrairement à ce que sa mère est avec. Je ne sais qui.
Et d'ailleurs, l'image qui véhicule.
Netflix va payer, parce que Neymar a touché de l'argent pour faire le documentaire.
Bien sûr.
Son père, toute son équipe de communication. Au jour d'aujourd'hui, on va faire un documentaire pour le découper. Il sort dans un contexte bien particulier. Tout ça, c'est juste un scénario.
Ouais.
Moi, alors, franchement, Neymar, ça m'intéresse pas.
Neymar,
n'intéresse
pas Yassine.
Ni en tant que personne.
C'est vraiment très dommage.
Il m'intéresse pas du tout.
C'est vraiment très dommage parce que.
Moi, ça m'intéresse. J'aime le foot. Par exemple, Zlatan, il y a eu des choses sur lui. J'ai regardé Maradona. Ça reste un personnage important du football, donc ça m'intéresse.
On laisse terminer Yassine. Et après, on revient à toi.
Préciser tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Neymar, c'est une entreprise à lui tout seul. Il emploie des milliers de personnes autour de lui. Il a un cercle très rapproché. Et le Neymar qu'on voit sur le terrain, qui pleurniche et autres, qui fait des caprices. Mais on en parlait d'ailleurs hier avec Yazid. C'est des joueurs qui ont un mental et qui un mental d'enfant. Et donc, quand ils sont forts, lorsqu'ils sont à leur prime. C'est parce que sur le terrain, ils ont cette liberté, ils font ce qu'ils ont envie de faire au moment, à l'instant T en fait. Contrairement à d'autres où ils vont sentir beaucoup plus de pression, ils vont beaucoup plus réfléchir et ça va être forcé, des gestes forcés, ça va pas fonctionner parce qu'il y a toute cette pression et veut enlever cette pression un petit peu à tout le monde. Et Neymar, c'est quelqu'un d'extrêmement altruiste durant toute cette période du Covid, et je prends sa défense parce que non pas parce que c'est un joueur brésilien, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître au-delà des terrains au-delà des terrains, et c'est quelqu'un qui quand même
faudra suivre Achille hein, mesdames et messieurs.
Attends, quand même faut bien le préciser, pendant cette période de Covid, quand le monde entier s'est arrêté, Neymar a été une des rares personnes à continuer à verser les salaires de tous ses employés tous les mois. Tous ses employés. Et je ne parle pas de 10 employés. Je parle de 200, 300, 400, 500 employés avec des gros salaires. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main.
Oui.
Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, qu'il est arrogant et ainsi de suite, ça n'a strictement rien à voir.
Non. Il n'est pas comme ça, Neymar.
Je prends cette défense-là.
La star brésilienne, je ne sais pas, ça fait sourire.
D'après ce que dit Yasmine, qui a commencé à voir.
Ah, t'inquiète pas, dans les zones mixtes.
Il y a que moi qui fais les devoirs, finalement.
Ils s'entendaient bien, Yasmine, avec Ebra. C'est pour ça.
Non, je pense que de ce côté-là, il faut prendre le documentaire comme un homme qui veut montrer ses failles. Et justement, mais en fait, il n'y a rien de plus fort qu'un homme qui veut montrer ses failles.
Je vais rajouter juste le fait que.
Alors, vas-y, Yasmine.
C'est justement au moment où il l'a perdu, on va dire, l'affection, l'amour de son père, que là, ça a commencé aussi à aller mal au niveau du football, où il a perdu vraiment cette joie de vivre sur le terrain. Et aujourd'hui, si tu remarques bien, quelle est la deuxième passion de Neymar ?
C'est les anniversaires.
Entre autres.
Le poker. Oh, mais non,
c'est le poker.
Mais non.
C'est la fiesta.
Ouais. Le poker.
C'est le poker, effectivement. Donc, le fait qu'il se mette au poker, qu'il joue au poker et qu'il est plutôt, je pense, bon au poker.
Il veut combler quelque chose, tu penses.
Exactement, c'est qu'il veut combler quelque chose. Il se dit, bon, au moins comme ça, je prends de la distance aussi avec le football.
Il chante bien aussi.
Il ne joue pas qu'au poker. Hein.
Oui, il ne joue pas qu'au poker. Il joue aussi aux jeux vidéo. Pour ne pas
il joue à beaucoup d'autres choses aussi. Hein.
Oui.
Ouais.
Il est très, bon.
Je sais pas,
il est très, très bon à ça.
Franchement, franchement, moi, c'est un joueur qui m'intéresse pas du tout.
Non, mais honnêtement, c'est quelqu'un de très, très gentil. Très, très gentil.
Et contrairement moi, je sais pas, je connais
contrairement
pas.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il a la main sur le cœur.
Mais.
Après, en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être bon sur le terrain.
Mais il est bon. Mais il n'a jamais été bon.
Exactement.
Il est bon sur le terrain. Il n'a jamais été bon. Même à Guingamp, il n'a pas été bon. C'est vrai, même à
Guingamp,
il n'a
pas
été bon.
J'ai tendance.
C'est juste de encore de l'argent. On va rajouter de l'argent à l'océan. Tout
ouais. Simplement. Et jeune et immature, on nous dit. Oui. Ouais, des auditeurs nous disent jeune et immature.
J'ai tendance à vouloir j'ai tendance à vouloir défendre l'humain parce que je peux comprendre que des fois à un moment donné tu sois dépassé mentalement et ça c'est même dans nos vies respectives de manière plus humble ça peut nous arriver. Par contre j'ai un peu moins envie de défendre le sportif. Si je vais comparer un Neymar sur un terrain et un Zidane, pour moi c'est deux salles, deux ambiances. Tu vois, Zidane, pourquoi il a pas connu les difficultés que Neymar a connues? Il a pas connu la starification, il a pas connu ça, il l'a mieux géré.
Non,
donc le sportif,
c'est pas au même stade.
Le sportif, parce qu'on n'est pas dans le même environnement, on n'est pas dans la même époque. C'est pour ça, Achille. Mais tu vois, même à la Copa América, un truc qui m'agace, le fait d'aller parler aux arbitres toutes les 180 secondes, frérot, joue au football, c'est chiant, tu vois. Tu sais, ça me saoule à un point incroyable. On a envie de voir du foot. Et tout le temps, t'es énervé, tu pleures, t'es pas bien. En plus, ça joue sur ton match, ça. Le fait de tout le temps être frustré, ça joue sur ton match. Ça peut t'énerver. Tu peux prendre un jaune, tu peux prendre un rouge, tu peux te blesser. En plus, t'es vulnérable à ce niveau-là. Et je trouve que, en fait, toute l'énergie qu'il devrait avoir, il ne le met pas au service, justement, de son métier, mais il le met ailleurs. Et pour moi, il devrait justement économiser. Peut-être faudra qu'il fasse appel à Yasmine justement, qui prenne des conseils justement. C'est pour ça que le sportif, j'ai pas envie de le défendre, mais l'humain, je peux comprendre que ce soit compliqué.
Ouais, l'humain, moi, j'ai vu son attitude à chaque fois qu'il a joué contre Riyad Mahrez, par exemple.
Oui.
Il a eu des comportements très déplacés envers lui.
Et bah là, t'avais le sportif, c'était sur le terrain.
J'aurais bien aimé être Mahrez à ce moment-là.
Oui.
Parce que
il faut que Mahrez aussi.
C'était un Algérien.
C'est vrai, je suis d'accord.
Bravo. Karim Benzema, c'est pas pareil.
Faut pas donner cette image-là.
Karim Benzema.
Faut pas donner cette image-là.
Non, mais.
Faut pas donner cette image-là. C'est un terrain, il y a des mots qui fusent.
Oui, voilà.
Bien sûr, Achille. Il y a des mots qui fusent.
Entre Messi, Ramos, ça le faisait.
Du classique. Moi, Bilal, je te rejoins. C'est le foot de haut niveau. C'est le foot de niveau. Si Neymar, ça reste des hommes, on en a rien à foutre du niveau des joueurs. Le mec, s'il le respecte pas, mais voilà. Mahrez, il a qu'à se défendre en tant qu'homme et point à la ligne. Oui, Zlatan, il se fait marcher par personne. Zidane, il s'est jamais laissé faire marcher par personne. Il a qu'à faire la même chose, Mahrez, c'est tout. Pas
Maradona,
parce que c'est Neymar.
Un joueur comme Maradona, un joueur comme Zidane, un joueur comme Platini, un joueur comme Cristiano Ronaldo, un joueur comme Messi, quand même, qui a marqué l'histoire du football. Il va le marquer encore pendant des siècles. Il n'a jamais eu l'attitude.
Il n'a jamais eu l'attitude. Ouais, je ne suis pas forcément d'accord.
L'attitude.
Lionel Messi. Pas je regarde un peu de temps en temps. J'y suis au stade pendant des années. J'ai couvert la Liga, j'ai couvert le championnat de France. Voilà, donc j'ai vu les attitudes des joueurs. Moi, arrogant comme Neymar, je n'ai pas encore vu.
La seule chose intéressante, on va dire, pour le début de ce documentaire, c'est qu'il a réussi à faire intervenir Mbappé, Beckham, qui ont fait des témoignages. Donc c'est assez, intéressant.
Mbappé, c'est un joueur de très grande intelligence.
Bien sûr.
Ça n'a absolument
rien
à voir.
Mais en définitive, pour moi, il n'y avait pas une importance pour Netflix de faire un documentaire sur Neymar et sur cette question-là, de savoir.
Ils ont ciblé.
Carlos Tevez aussi, ça servait à rien.
T'imagines les documentaires qu'ils mettent sur Netflix. Tu vois Neymar, tu cliques, et ça, c'est le besoin de Netflix. Le nom fait cliquer. Ça, pour le coup, là.
Sur relation avec son père, je pense que, à ce qu'il n'y a pas volonté de vouloir écarter son père, peut-être qu'il n'a pas été associé à tout ça. Parce que je ne pense pas que son père aurait accepté de se voir dans cette situation c'est ce que j'ai vu sur les articles de presse.
Donne-moi des millions, critique-moi comme tu veux, Yacine, j'en ai rien à foutre. On sait que je vais toucher tant, critique-moi, allume-moi de A à Z, tranquille.
Je pense qu'on n'a pas besoin d'argent.
Alors
après, il y a l'image aussi que tu peux sauvegarder quand tu es un papa. t'as bien envie de. C'est, en plus, les Sud-Américains, c'est comme les Africains en général, ils sont très protecteurs de leurs enfants, ils sont très proches.
Je vais encore parler de Zidane, comparant le papa de Zidane au papa de Neymar, tu vois, par exemple. C'est deux salles des ambiances, encore une fois.
Neymar,
je suis bien d'accord, mais bon, mais on est obligé.
Le papa de Neymar, le papa de Zidane, c'est un ouvrier. Il s'est jamais mêlé. Et ça, à la limite.
Et du coup, ça a mieux marché.
Les relations sont différentes. C'est-à-dire, le papa de Messi, par exemple. Même le papa de Messi, c'est quelqu'un qui est. Même s'il est présent.
Messi, ouais.
Même s'il est présent, mais c'est quelqu'un qui est quand même. Il laisse des distances. Il sait communiquer. Il sait agir. La maman de Cristiano Ronaldo, par exemple, c'est. Même si son fils, c'est après le décès de son père,
finalement, je suis sûre que son père a eu un mot à dire sur ce documentaire. C'est qu'il a encore pris son fils pour du business. C'est
peut-être,
tout.
Peut-être. Il y a beaucoup, comme beaucoup de parents aujourd'hui.
Moi, je pense pas.
Dans le monde du football.
C'est
une problématique qui commence à devenir.
Je pense pas parce que.
On termine l'émission.
Neymar est quand même, a quand même ce caractère. Et s'il doit dire merde, il n'hésitera pas à dire merde. Même si c'est son père.
D'ailleurs, il y avait. Il y avait l'ex-agent de Karim Benzema, Karim Jaziri, qui était sur le plateau d'RMC.
Ah, il est chez nos confrères d'RMC.
Il parlait justement des parents et parlait justement du papa de Karim Benzema.
Ouais.
Il lui a dit que Karim Benzema a 18 ans à Lyon, il touchait 400 000 euros par mois, mais le papa, il a su avoir les pieds sur terre et toujours garder sa distance et protéger son enfant, ce que beaucoup, beaucoup d'autres parents n'ont pas su faire. Et des fois, quand il y a la carrière de leurs enfants, il y a un joueur quand même
qu'on voit tout
de
suite.
Ben Arfa, il a été victime de son milieu le plus proche.
C'est ça, de son éducation.
Tendu avec son père.
Ouais.
Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'il a énormément souffert. C'est un gamin qui a souffert, Ben Arfa. Alors, sportivement, je pense qu'il est au-dessus de.
Je dis merci. Yasmine, merci aussi Yassine, Achille, et sans oublier Samir de m'avoir accompagné. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM, nous on se retrouve dès demain à partir de 20h et aussi à 22h, vous pouvez retrouver Vanessa à la réalisation avec Giovanni. Bye bye.
Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.